Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La sagesse de l'anus, détente et plaisir pour tous les genres. Quel titre ! C'est en discutant avec Emmanuel Duchesne lors de notre épisode numéro 12 sur le slow sex qu'elle m'a dit « Tu devrais recevoir Thomas sur ton podcast, il propose des outils de pleine conscience, dont la masterclass « Sagesse de l'anus ». » C'est vrai qu'en entendant ce titre, je me suis dit « ça peut être intéressant ». Donc oui, peut-être que ça va vous faire rire, car c'est un sujet qui est parfois nié ou moqué, souvent tabou, il peut être associé à de la honte, à de la gêne. Mais l'intention de ces apprentissages est de pouvoir rencontrer son anus en pleine conscience, apprendre à se détendre et ouvrir des chemins de plaisir. Thomas Rocourt est coach et éducateur somatique. Il est certifié en Somatic Sex Education et Sexological Bodywork. Il est également formé en Integrative Somatic Trauma Therapy. Thomas, bienvenue sur le podcast.
Merci beaucoup Camille, plaisir d'être là.
Alors tu le dis sur ton site internet, tu es un homme cisgenre et hétérosexuel. Pourquoi pour toi c'est important de le mentionner? Et puis ça m'intéresse aussi de savoir quel est le profil des personnes qui justement demandent tes services.
Ouais, merci pour cette question. Pour moi c'est un bon point de départ, surtout si on va parler de l'anus aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle ce site, c'est-à-dire que je définis d'où je viens, comment j'ai été éduqué, c'est quoi les constructions sociales que j'ai reçues. C'est que j'ai été éduqué comme personne qui a été assignée garçon et homme. Et en plus, j'ai des pratiques sexuelles hétérosexuelles, ça fait que j'ai une vision du monde, j'ai une façon de rentrer en lien, j'ai certains privilèges, et on pourrait faire tout un podcast là-dessus, mais il y a déjà plein d'autres personnes qui parlent, qui font que je ne suis pas forcément pertinent pour parler de certaines choses, de parler du point de vue d'une femme cisgenre, ou de personnes trans, ou de personnes, par exemple, qui ont des relations homosexuelles, des personnes homosexuelles. Donc, c'est pour dire aux personnes qui veulent travailler avec moi, voilà d'où je parle. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler à tout le monde, ou en tout cas avoir des clients de tout type d'orientation sexuelle ou de genre, mais c'est juste que j'aime bien préciser ça pour prendre en compte l'approche systémique dans le travail. Et après, par rapport à la deuxième partie de ta question, je travaille principalement avec des femmes cisgenres hétérosexuelles, un petit peu aussi avec des hommes cisgenres hétérosexuels, ils commencent à venir. Sur les sujets d'anus, là par exemple, je fais une retraite en février, et là, c'est 80% d'hommes qui seront là. Donc ça commence à répondre, c'est des hommes hétéros, Donc, et puis j'ai travaillé un petit peu aussi avec des personnes transgenres, mais c'est plus rare. Parfois sur des questions d'image, de soi, etc. Mais c'est d'autres choses que je fais qu'on va pas parler aujourd'hui, je pense.
Ok, ouais, donc c'est plus particulièrement des personnes cisgenres, hétérosexuelles, femmes, hommes. Hommes, ça commence à venir. Alors, la retraite, c'est en février 2023, mais l'épisode sera sorti en mai 2023.
Oui, je l'ai pensé quand je l'ai dit. Je l'ai pensé.
Mais restez les oreilles et les yeux grands ouverts, parce qu'il y aura sûrement d'autres retraites, j'imagine.
Tout à fait, il y en aura d'autres. Ouais. C'est un sujet qui me passionne et que je vais continuer à partager. Ouais.
Tu parlais justement, donc quand tu expliquais voilà, ton genre et puis que tu pratiques, tes pratiques, c'est des pratiques hétérosexuelles. J'ai envie de rebondir parce que souvent, quand on parle de l'anus, quand on parle du plaisir anal, bah ça peut être difficile, et d'autant plus quand on s'adresse aux hommes, et là aux hommes cis hétérosexuels, il y a souvent cet amalgame. Et encore il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo TikTok pour parler de ça, de la masturbation interne, de la pratique anale, et beaucoup de réponses étaient « Non mais c'est bon, si on commence à faire ça, on va tous devenir homo. » Tu réponds quoi à ça?
Bah, je sais pas si j'ai envie de rire, de pleurer, de crier, c'est un mélange de tout. Ouais, ouais. Mais oui, bah, ça montre bien où est-ce qu'on en est encore en termes de construction sociale. C'est-à-dire, quand je suis éduqué comme un garçon, comme un homme, et qu'en plus je suis hétéro, je pense que je dois avoir certaines pratiques. Alors qu'en fait, juste rappeler que le plaisir n'a pas de genre ni d'orientation sexuelle, en fait. Et que l'anus, c'est juste une zone érogène, comme tout le corps, mais c'est une zone particulièrement érogène avec des terminaisons nerveuses. Pour les hommes, en plus, il y a une prostate, qui est aussi un organe de plaisir. Donc, c'est une zone qui ne définit pas mon orientation sexuelle, mais qui me définit juste peut-être mon désir, ma capacité à créer de l'imaginaire érotique et de le vivre autour de cette zone-là. Et l'imaginaire érotique, il est créé par les représentations qu'on a depuis la toute petite enfance en général. Et vu qu'on nous a dit que c'était que les personnes homosexuelles, les gays, les hommes gays qui pouvaient pratiquer, avoir du plaisir avec l'anus, on se dit, on va tous devenir gays. En plus, cette phrase, elle est drôle. C'est comme si c'était quelque chose de grave déjà, comme si c'était un danger qu'il fallait éviter. Comme si c'était un danger qu'il fallait éviter, il n'y a aucun danger. Juste, l'idée, c'est de s'ouvrir à son plaisir, à ce qui nous fait du bien. Et après, peut-être que dans ma vie, je serais attiré à un moment plus par des femmes, plus par des hommes. Mais en général, ça, de toute façon, ça ne change pas la définition de l'orientation sexuelle, si je prends du plaisir avec mon anus ou pas.
Oui. Bah oui, on est d'accord là-dessus. Puis il y a toujours aussi cette dimension où c'est pas parce qu'on parle du plaisir anal que vous devez forcément faire cette pratique déjà, et puis deuxièmement d'avoir du plaisir. Donc ça, qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce qu'on en parle que les personnes sont obligées de faire cette pratique-là.
Oui, ça peut être vécu comme un peu une injonction parfois quand j'en parle, comme s'il fallait absolument que tout le monde pratique la sexualité anale. Alors c'est pas du tout le message, mais le message c'est plutôt de se dire « Ok, pourquoi je le pratique pas ?» Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire pas? Est-ce que c'est juste parce que j'ai des limitations liées à la construction sociale, au monde dans lequel je vis? Et après aussi, moi j'aime bien aborder l'anus comme un endroit qui est pas forcément une pratique sexuelle, mais avant tout, c'est ce que je dis dans tout ce que je partage, c'est avant tout un endroit de détente et de présence à soi. En fait, pour moi, l'anus, avant même la sexualité, le plaisir, c'est un endroit qui permet en fait de se relier profondément à son corps, à son système nerveux. On pourra en parler plus en détail, mais du coup, en soi, c'est juste un endroit qu'on pourrait masser sans qu'il y ait une intention sexuelle. Comme je me fais masser le dos, je pourrais me faire masser l'anus, et aussi en externe et en interne, et ça pourrait être juste une pratique de détente. En fait.
C'est vrai, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, parce que du coup, j'ai suivi ta masterclass Sagesse de l'anus, et j'ai appris plein de choses, comme je te l'ai dit, en off. Et allons là-dessus. Ce que j'ai vraiment retenu aussi, c'est qu'en fait, en se massant l'anus, c'est presque l'accès le plus rapide, je ne sais pas si c'est le plus efficace, mais pour masser son système nerveux autonome. En gros, tu dis que l'anus est la voie la plus rapide pour la détente. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ?
Ouais, c'est exactement ça. C'est une phrase qui accroche et en même temps qui est vraie. Alors peut-être pour expliquer ça, ça demande de faire un tout petit peu d'anatomie. Je ne vais pas rentrer tout en détail, mais donc l'anus et du coup... Ce qu'on appelle l'anus, en fait, il y a une histoire de sphincter autour de l'anus. Il y a le sphincter externe, qui est ce qu'on appelle anus. Donc le sphincter externe, c'est, je peux le contrôler, c'est lié au périnée, donc en contractant, comme si je m'arrêtais, par exemple, je voulais m'arrêter d'uriner, je peux aussi plus précisément contracter le sphincter externe et fermer et ouvrir mon anus. Et ça, ça, c'est quelque chose que je peux pratiquer qui dépend de mon système nerveux somatique. Donc, c'est une fonction que je peux, qui est volontaire du corps. Mais si je rentre juste à l'intérieur un tout petit peu de l'anus, où là, j'arrive en fait, c'est le canal anal qui ensuite va déboucher sur le rectum, j'arrive sur le sphincter interne. Et ce qui est intéressant avec le sphincter interne, c'est que c'est un sphincter que je ne peux pas contrôler de manière volontaire. Donc, c'est un sphincter qui dépend du système nerveux autonome. Donc, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec le système nerveux autonome, c'est tout ce qui contrôle les fonctions involontaires du corps. Donc, par exemple, là, je te parle, je sais que je vais être écouté, potentiellement, il y a mon cœur qui va battre un petit peu plus vite pour aller faire circuler le sang, mes pupilles vont se dilater d'une certaine façon, la digestion, enfin, toutes les fonctions qui se passent sans que j'ai rien à faire, juste mon corps sait faire, ça, c'est le système nerveux autonome.
En automatique.
C'est ça, ça se fait en automatique. Et donc, quand j'arrive sur le sphincter interne, j'arrive sur le système nerveux autonome. Et ça veut dire que, littéralement, je peux masser mon système nerveux autonome, en fait. Je peux poser un doigt par le sphincter interne sur le système nerveux autonome. Donc, je peux masser, je peux détendre mon système nerveux autonome. Donc, c'est juste hyper puissant. Et c'est ce que vont reconnaître les personnes qui pratiquent avec l'anus. C'est que moi, quand j'ai commencé aussi, la première chose qui m'a surpris, c'est l'état dans lequel ça me mettait, en fait, ça me met vraiment dans un état de détente profonde de tout le corps, qui peut-être peut ressembler à un état plus orgasmique pour les personnes, les femmes cisgenres, les orgasmes dits féminins, mais aussi les hommes peuvent aussi contacter d'autres façons, mais il y a vraiment cet état de juste, en fait, je suis hyper détendu, parce qu'en fait, ça ment pas le sphincter interne, s'il est détendu, ça veut dire que je suis détendu dans tout le corps. Et s'il est serré, ça veut dire que je suis serré.
Voilà. Oui, et puis en même temps, pour atteindre justement ce sphincter interne, bah, il faut avoir une certaine détente déjà. Ça sous-entend qu'il y a une certaine détente qui va en plus venir amener une détente encore plus supplémentaire, par exemple.
Oui, c'est ça. Ça demande une certaine détente. Après, il est juste à quelques centimètres. Hein, c'est 0,5 centimètre de l'entrée. Donc, mais il y a des personnes, en effet, qui peuvent, si je suis vraiment complètement serré, je peux rien mettre du tout dans mon anus, même pas l'atteindre, ouais. Contracté. Donc oui, ça demande déjà d'être dans un certain état de détente, d'ouverture, d'avoir régulé son système nerveux, peut-être d'avoir pris le temps de respirer, de se poser. Et ensuite, de vraiment, en fait, laisser faire l'intelligence du corps. C'est ça, c'est le sphincter interne, c'est l'intelligence du corps. C'est, en fait, je vais pas te mentir, si t'es tendu, ça sera tendu. Et j'ai eu des retours, parce que je donne aussi, on pourra en parler plus en détail, mais je donne cette conférence là que je te dis, cette masterclass, je la fais aussi avec un personnage de drag clown, où je parle de ce sujet-là du coup en jouant sur le genre, et c'est un spectacle qui s'appelle aussi La Sagesse de l'Anus. Et j'ai souvent des personnes qui viennent me voir à la fin du spectacle et qui font des témoignages un peu en off, parce qu'elles n'ont pas forcément été... Enfin, c'était trop difficile peut-être de le dire devant tout le monde. Mais j'ai souvent des témoignages, par exemple, de femmes, plusieurs, qui sont venues me voir, femmes cisgenres hétéro, qui me disaient, en fait, même moi, la pénétration anale, je peux pas tricher, en fait. Quand je suis pénétrée analement, c'est vraiment un endroit où j'ai besoin d'être très présente, c'est mon état de présence le plus grand, alors que quand je reçois une pénétration ou quand je fais de la circlusion vaginale, et ben, je peux être dans mes pensées, je peux être ailleurs. Et l'anus, il y a vraiment un truc où l'anus ne ment pas, quoi. Il y a ce truc-là, quoi.
Ouais, l'anus ne ment pas, c'est vrai. Et j'ai quand même envie de rajouter aussi, le vagin ne ment pas non plus, parce que c'est peut-être pas, et on parle, tu vois, de pleine conscience, c'est peut-être pas souhaitable qu'il y ait une pénétration, une circlusion vaginale et ne pas être attentive à ce qui se passe et à s'échapper mentalement aussi.
Complètement, mais... je voulais pas dévaloriser le vagin ou dire qu'il a pas d'intelligence, c'était juste pour montrer un exemple, mais oui, merci de reposer ce contexte-là.
Non, mais en fait, dans n'importe quelle pratique, même de pénétration, la personne qui est pénétrée, que ce soit une femme ou un homme, en fait, ça demande un cadre rassurant. Et alors, peut-être d'autant plus, peut-être l'anus, on pourrait se dire, mais vraiment un cadre rassurant. Et ça, comment... Voilà, les personnes qui ont envie d'avoir un cadre rassurant pour explorer justement cette pratique, est-ce que tu as des conseils à leur donner, justement, pour amener cette détente, pour être le plus relaxé possible?
Ouais, bah en effet, sur le cadre rassurant, il y a plein de choses différentes. Déjà, c'est d'avoir le cadre, littéralement, c'est-à-dire l'environnement dans lequel je suis, que je sais que je vais pas être interrompu, je sais peut-être que j'ai l'intimité qui est suffisante pour moi, je sais que peut-être soit j'ai la musique qui va bien, ou soit j'ai le silence qui va bien, donc c'est trouver, ou la petite bougie qui va bien, enfin c'est trouver quel contexte fait que moi je me sens en sécurité, et vraiment littéralement le système nerveux, il va scanner en permanence dans l'espace les indices de sécurité et d'insécurité. Et on peut même voir ça chez nous, peut-être qu'il y a des endroits, ou même chez des gens, où je me sens plus ou moins sécure, et c'est lié potentiellement à l'organisation de l'espace, à ce meuble qui est mis à cet endroit-là, ça peut, les portes qui sont fermées, qui sont ouvertes, donc déjà voir dans mon environnement, est-ce que je suis dans un environnement qui me donne de la sécurité. Et ensuite, bien se poser, s'installer. Moi aussi, ce que je recommande potentiellement, c'est de commencer à pratiquer seul, parce qu'il y a moins d'enjeux. Que dans la relation tout de suite, il y a une intensité qui augmente et donc potentiellement aussi un petit peu d'insécurité qui peut arriver, d'autres enjeux relationnels. Donc commencer seul et vraiment prendre le temps, aller doucement et ne pas avoir d'objectif. En tout cas, c'est chouette d'avoir une intention, d'avoir une direction, mais en tout cas de juste être dans une optique plus de curiosité et de faire avec ce qui est là et de vraiment prendre le temps de rencontrer cette partie de son corps. Après, très concrètement, il y a des choses qui peuvent aider, comme par exemple la respiration. Donc, pour activer plus le système nerveux parasympathique, donc le système de détente, de lâcher prise, plus méditatif. Globalement, toutes les respirations où l'expiration est plus longue va aider à détendre. Donc, je prends des inspires plus courts que mes expires. Et je peux vraiment relâcher la mâchoire, sentir mon visage qui se détend, et sur l'expire aussi faire du son. Quand je fais un son sur mon expire, je donne littéralement à l'information à mon système nerveux que je suis en sécurité. Parce que si j'étais en train de fuir ou d'attaquer, je ne pourrais pas faire du son. Je serais juste en train de concentrer.
Oui, la respiration est coupée, quoi.
C'est ça, là, c'est plutôt une respiration haletante. Et alors que si je prends un grand inspire et je fais un... vraiment le corps, là, je donne l'information à mon système aveugle que je suis en sécurité. Donc la respiration, elle est hyper importante. Et puis après, chacune trouve ses endroits. Ça peut être sentir son poids, méditer.
Et par rapport à la respiration aussi, tu disais dans ta masterclass aussi, justement, tu parlais de détendre la mâchoire. Pourquoi c'est important de détendre la mâchoire pour justement permettre une relaxation?
Ouais, donc ça, on peut en fait, ça me fait cette question me fait revenir au sphincter, c'est qu'il y a une autre information qui est vraiment intéressante. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a halluciné. J'ai fait waouh, mais c'est génial. Donc, on a une quarantaine, une cinquantaine de sphincters dans le corps, et la plupart sont sous contrôle involontaire, tout comme le sphincter interne. Donc, il y en a beaucoup qui sont impliqués dans les systèmes de digestion, par exemple. C'est aussi il y a un sphincter qui est impliqué pour uriner. Il y a un sphincter au niveau des yeux, il y a un sphincter au niveau de la gorge. Donc, l'idée, c'est qu'il y en a une quarantaine, cinquantaine, et qui sont tous reliés. Donc, ça veut dire que si je détends un sphincter, je vais détendre potentiellement, ça permet la détente de tous les autres. En revanche, si je serre un sphincter, ça va aussi contribuer à serrer un peu tous les sphincters. Donc, si je détends mon visage, ma mâchoire, et que je détends du coup le sphincter au niveau de la gorge, au niveau des yeux, littéralement, je vais avoir un impact sur tous les sphincters, dont le sphincter anal, interne, et aussi le sphincter externe. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Puis après aussi, ce qui est vraiment fort, c'est qu'il y a vraiment la sortie de l'anus, c'est la bouche, en fait. Il y a vraiment... on ne voit pas le jour.
Attends, c'est quoi? La sortie de l'anus, c'est la bouche, c'est quoi, là?
En fait, il y a vraiment un seul... il y a un tube continu, en fait, qui va de la bouche à l'anus et de l'anus vers la bouche.
Ah,
et du coup, il y a vraiment une connexion très forte entre la bouche et l'anus aussi. Donc, au-delà des sphincters, en fait, avec un petit peu de pratique et d'attention, on peut vraiment sentir que quand j'ouvre la bouche, en fait, il se passe quelque chose. Et quand je bouge un peu la mâchoire, il se passe quelque chose dans l'anus. Il y a une connexion, en fait, vraiment directe.
Je ne vois plus mon anus de la même façon, là. Et la visualisation, tiens, d'ailleurs.
Visualisation, c'est-à-dire visualisation de méditation, de choses comme ça?
Ouais, du coup, je pense que ça peut aider aussi, parce qu'effectivement, quand, comme je te disais, je vois plus mon anus de la même façon, c'est parce qu'en souriant, je me disais, ça s'ouvre à mon anus. Enfin, j'avais l'image de l'anus qui sourit. Donc, un peu comme ça me fait penser un peu à l'accouchement aussi, ou même quand on travaille avec le périnée, cette visualisation de cette fleur qui s'ouvre, etc. Bah, là, c'est un peu cette même image qui me venait avec l'anus, quoi.
Complètement, ouais, je pense que ça peut bien marcher pour certaines personnes, en effet, la visualisation, et déjà de connaître un peu mieux son anatomie, de regarder un peu des schémas, et ensuite de le pratiquer, et après, ouais, chacune trouve sa voie sur qu'est-ce qu'il y a, en effet, la visualisation, ça peut être très puissant.
Et je t'ai coupé, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure?
Ouais, non, parce que du coup, le fait de dire que c'était que la sortie de l'anus, c'était la bouche, et je le dis de manière un petit peu, c'est un raccourci, mais c'est une vérité aussi. Ça me fait penser que c'est pas un mythe, les trucs de aux urgences, on a retrouvé plein de choses différentes dans les anus des gens. Ça existe vraiment, parce qu'en fait,
Oui.
il n'y a pas de, donc y a pas de fin, de fermeture dans l'anus. Du coup,
C'est pas une impasse.
voilà, c'est pas une impasse. Donc faites attention si vous introduisez quelque chose dans votre anus, quoi que ce soit. Déjà que ce soit quelque chose de plutôt lisse, qui soit doux, qui vienne pas abîmer les parois, mais aussi quelque chose qui est une base. C'est pour ça que tous les sextoys anal, ils ont une base, c'est-à-dire que ça empêche que l'anus, enfin le sextoy se perde quelque part. Ou si ça n'a pas de base, vraiment, c'est un petit risque que tu le tiens bien dans ta main et tu t'assures qu'il va pas se perdre quelque part. Voilà, c'est une petite info d'éducation sexuelle.
Ouais, la base, vraiment, voilà, elle s'arrête, elle va pas plus loin que l'anus, du coup, c'est ça qui rassure, parce qu'on peut voir effectivement avec l'excitation l'anus venir aspirer, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'une
Voilà, ouais,
base.
c'est ça, c'est pour ça qu'on voit sur tous les sextoys anaux, il y a une base qui permet d'éviter cet accident.
Bah, alors justement, on est sur le terrain des accidents, des risques. Bah, parlons-en alors. Du coup, est-ce que tu peux nous faire des petits rappels importants quand on pratique justement l'anal?
Une chose qui pour moi me paraît basique, mais aussi pour tout en général et aussi pour la sexualité en général, c'est que c'est pas normal de ressentir de la douleur. Donc ça peut être un choix, hein, bon, certaines pratiques, de jouer avec la douleur, etc. Mais là, on n'est pas là-dessus dans ce partage. Donc si je ressens de la
C'est
douleur,
bien de le dire,
si
ça.
je ressens de la douleur dans la pratique que j'ai avec mon anus, peu importe laquelle pratique, c'est pas normal. Et en fait, ça vient juste me dire, bah, ralentis, peut-être change quelque chose, peut-être s'il y a une pénétration, bah, recule un petit peu. Prends le temps de respirer, prends le temps. Donc vraiment, faut ne pas rester avec la douleur. Et c'est aussi peut-être une idée reçue qui existe sur c'est normal d'avoir mal dans les pénétrations anales. C'est normal d'avoir mal dans les pénétrations anales qui sont juste trop rapides ou pas à l'écoute du système nerveux. C'est pas normal du tout. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment un bon indicateur. Et en plus, le corps me donne l'info. Donc si j'ai mal, c'est qu'il y a un truc qui va pas et ça évite de forcer, de se faire mal, de créer des choses qui sont pas cool.
Et juste pour rebondir sur la douleur, ouais, c'est important effectivement de le dire. Et puis il y a des fois aussi certaines personnes qui vont dire qu'elles adorent l'anal, mais que en fait, bon bah, c'est un peu 50% de douleur, 50% de plaisir, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là?
C'est pas normal. Enfin, je dis pas qu'elles sont pas normales. Je dis pas qu'elles sont pas normales. En fait, c'est normal qu'elles ressentent de la douleur, mais ça veut dire que ça va sûrement trop vite, trop fort, que ça laisse qu'il n'y a pas eu le temps au sphincter et à l'anus de vraiment se détendre et du coup de pouvoir avoir une sexualité anale sans douleur. En fait, ce que je veux dire, du coup, c'est que c'est possible d'avoir une sexualité anale sans douleur et moi, c'est vraiment ce que je recommande. C'est le plus safe.
C'est vraiment important que tu le dises, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de parallèles du coup aussi, bah, avec la pénétration, hein, vaginale, c'est la même chose aussi, hein,
Oui.
c'est voilà, pas de douleur. S'il y a de la douleur, c'est que c'est mal fait, c'est qu'il y a besoin d'une pause, c'est qu'il y a besoin de quelque chose, mais on écoute son corps, et c'est ce que tu dis aussi tout du long, c'est cette conscience de l'anus, c'est en fait d'avoir conscience de ce qui se passe dans son corps et d'être à l'écoute de s'il y a des choses à
Ouais,
ajuster.
c'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment un endroit très fin qui donne beaucoup d'informations et aussi très vulnérable en fait. C'est un endroit vulnérable. C'est pour ça que c'est beau aussi.
Tu disais en fait c'est très fin. Est-ce que c'est pour ça qu'aussi certaines personnes peuvent dire après une pratique anale, alors que ce soit avec un pénis, un sextoys ou les doigts, des fois avoir des petits saignements? Est-ce que ça peut arriver?
Alors ça peut arriver, mais encore une fois, normalement ça. Enfin, je dis pas que ça devrait pas ou quoi, ça peut arriver, mais normal. Mais en tout cas, l'idée c'est que ça arrive pas avec encore une fois la lenteur, le soin, beaucoup de communication si c'est à deux. Ensuite, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave. Ensuite, juste à vérifier, bah, est-ce que dans les jours qui suivent, est-ce que ça continue, est-ce qu'il y a des douleurs. Mais a priori, c'est pas quelque chose qui est spécialement normal. En tout cas, dans une pratique, ça peut s'éviter. Voilà, avec plus de temps et
Ok,
de patience.
c'est bien de le
Ouais.
rappeler aussi. On revient toujours, temps, patience. Ok, allez, j'arrête de te couper. Tu peux revenir sur les risques.
Oui. Alors, ensuite, on peut parler d'hygiène aussi, parce que c'est parfois
Ouais,
une.
ça revient souvent.
Ouais, voilà, ça peut être un frein pour les personnes de se dire, ouais, mais c'est sale. Le caca, les excréments, tout ça. Donc, en effet, bah, l'anus, le canal anal, et après ensuite le rectum, c'est le dernier segment du tube digestif. Donc c'est par là que passent les excréments. En revanche, dans un régime assez riche en fibres, et voilà, et ça peut changer, hein, y a des périodes qui sont plus ou moins propices, mais y a, normalement, le rectum et le canal anal ne stockent pas les excréments, c'est-à-dire que c'est juste un passage, il n'y a pas de stockage. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, on pourrait avoir des pratiques anales, même sans faire de lavement, sans retrouver de traces d'excréments et sans voilà, être en contact avec ça. Ah, par contre, voilà, en fonction des périodes de vie, de ce qui se passe, de ce qu'on mange, parfois peut-être que nos excréments sont d'une certaine texture, peut-être qu'il y a un peu des résidus qui restent dans le canal anal, dans le rectum. Et dans ce cas-là, si on veut être vraiment plus tranquille par rapport à ça, il y a la possibilité de faire un lavement, d'utiliser une poire anale. Et donc quelques heures avant, si je sais que je vais avoir une pratique anale, je peux faire un lavement. Et je dis quelques heures avant parce qu'après, laisser le temps vraiment à toute l'eau de s'écouler. Et là, je réduis vraiment les risques de rencontrer des traces ou d'excréments dans ma pratique. Après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que de toute façon, si je pratique autour de l'analité, je dois être prêt à ce que potentiellement, un jour, je rencontre une trace. Et que, en fait, juste, si c'est avec moi-même que je cherche, est-ce que je suis OK avec ça? Si c'est avec quelqu'un d'autre d'en avoir discuté avant, oui, qu'est-ce qui se passe pour toi si ça arrive? Et juste, si ça arrive, il n'y a rien de grave, juste on nettoie, on se lave les mains, on lave ce qui a été en contact avec l'excrément, et il n'y a rien de grave par rapport à ça. C'est aussi, l'anus, c'est vraiment contacté avec cet endroit un peu construit aussi de honte autour de toutes les sécrétions corporelles. C'est comme si la sueur, les bouts de peau, toutes nos sécrétions, elles ont tendance à être dans notre société là un peu plus, on va dire, encore en 2023, il y a beaucoup de choses autour de l'apparence et de devoir être d'une certaine forme d'apparence. On a nié un peu toutes les choses les plus basses, entre guillemets, de notre corps. Et voilà, donc c'est aussi juste redire, c'est juste naturel. Et même dans les excréments, il y a même plein d'informations. Donc être en lien aussi avec ces excréments, dans le sens de les regarder, les naturopathes, ils vont souvent demander, combien de fois tu vas à la selle, c'est quoi la couleur, c'est quoi la texture. Donc en fait, on a aussi beaucoup de choses à apprendre dans un autre rapport avec notre corps et aussi avec notre façon de faire caca, potentiellement.
Ouais, comme tu dis, c'est une boussole d'information. On apprend plein de choses en observant justement ces selles, mais aussi du coup par rapport à ça aussi, le sexe ou les pratiques sexuelles, c'est aussi c'est messy quoi. C'est il y a du bazar, il y a des fluides et donc c'est ok comme tu dis avec ça, et d'autant plus si on est dans une pratique anale, d'être ok avec le fait que peut-être il y aura des résidus, des choses comme ça. Et par rapport au lavement aussi, parce que souvent aussi, on va plutôt préconiser de peut-être pas faire de lavement parce que ça peut aussi déséquilibrer la flore anale, je pense que c'est ça, comme ça, avec justement l'eau, etc. Je ne sais pas toi ce que tu en penses ou des retours peut-être que tu en as eu là-dessus.
Pour moi, j'ai pas eu de retour comme quelque chose qui soit dangereux ou peut-être vraiment. En plus, en fait, avec les poires, c'est des lavements quand même avec assez peu d'eau. C'est pas comme les grands lavements où vraiment on remonte plus dans l'intestin et tout ça. Là, c'est vraiment juste mettre quelques. Une petite quantité d'eau juste pour nettoyer vraiment le rectum.
D'accord.
Donc pour moi, il n'y a pas de contre-indication dans ce que je connais, dans ce qu'on m'a dit. C'est OK. Mais personnellement, par exemple, moi, je ne pratique pas toujours le lavement. C'est juste parfois, je peux pratiquer sans avoir fait le lavement. Je me sens aussi à l'aise comme ça et c'est aussi agréable de pouvoir le faire sans lavement. Mais encore une fois, c'est assez personnel et aussi en fonction de la personne avec qui on le fait, s'il y a un besoin d'ajustement sur ça, quoi.
Ok, donc ça, là, on peut. Ok, il y a question d'hygiène, il y a question de ne pas avoir mal.
Le dernier, qui est vraiment important, ça serait aussi de parler de d'IST, quoi, d'infection sexuellement transmissible. Donc, l'anus, c'est une zone qui est riche en nerfs, en terminaisons nerveuses. Et aussi, c'est une zone assez sensible, comme tu as dit, il peut y avoir parfois des petits saignements, en tout cas des micro-coupures. Et donc, ça fait que, en fait, il y a à peu près toutes les mêmes IST qu'on peut trouver dans des rapports pénis-vagin, où ils sont les mêmes, en fait, dans l'anus. Donc, faire attention à se protéger, ou en tout cas, avoir des discussions avec la personne avec qui on interagit sur où est-ce qu'elle en est avec ses tests, etc. Enfin, toutes les discussions qui pourraient aussi être l'objet d'un podcast entier, comment faire du safer sex.
Oui.
Mais même, par exemple, si c'est inséré, par exemple, des doigts dans un anus, des doigts qui ont des coupures, des choses comme ça peut être un danger de circulation, d'échange de fluide sanguin. Donc voilà, faire attention à ça. Donc ça peut être aussi mettre des gants.
Donc mettre des préservatifs, mettre des gants, mettre des digues dentaires s'il y a de l'anulingus, des choses comme ça.
Sinon être conscient des risques de transmission et du coup d'être au clair avec l'autre personne sur où est-ce qu'on en est sur les tests. Et ensuite un point vraiment important, c'est un point qui est lié à l'hygiène pour le coup. Moi ce que j'aime bien dire, c'est que tout ce qui est introduit dans l'anus, c'est du single use, donc c'est un usage unique. Donc que ça soit un doigt, un sextoy ou quoi, en fait c'est que dès que je ne suis plus... Déjà je l'utilise que pour ça, et une fois que si je veux faire autre chose, je lave ma main, je lave mon doigt, je lave le sextoy, je change de préservatif. Et c'est vraiment important, notamment pour quand il y a des stimulations anales avec des vagins, ne jamais passer de l'anus au vagin.
Non, please, ne faites pas ça.
Ça peut être ok de passer du vagin à l'anus. De l'anus au vagin, ça, c'est vraiment très risqué. Ça peut vraiment, il y a plein de risques de mycose. En fait, la flore de l'anus et celle du vagin ne vont pas ensemble. Elles sont pas faites. Et pourtant, c'est assez proche. Géographiquement, physiquement. Du coup, voilà, faire vraiment... C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, faire attention, même par exemple, si ça peut être mettre une petite serviette aussi, poser une petite serviette sur le vagin, s'il y a un massage, ou pour éviter aussi, par exemple, que l'huile coule, ou que le lubrifiant coule de l'anus vers le vagin. Donc, voilà, y aller tranquillement, et être vraiment en conscience du single use, parce qu'en fait, dans la folie de la rencontre, et de ce qui se passe, on peut l'oublier, mais en fait après ça peut avoir des conséquences qui sont vraiment pas cool.
Non du tout, on n'a pas envie de se retrouver avec une infection, ouais, ça à faire attention, le single use, j'aime bien, ouais. Donc de se rappeler que tout ce qu'on utilise avec son anus, les jeux pour jouer avec son anus, bah c'est une fois, et ensuite on lave, on jette ou on remplace, mais on ne passe pas de l'anus au vagin ou l'anus à la bouche ou à autre chose,
quoi. Ouais, donc il faut être vraiment clair là-dessus, et c'est vrai que dans la fluidité du truc, bah, parfois on l'oublie, donc voilà, se le rappeler, c'est important.
L'anus à la bouche, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais voilà, moi c'est dit. Et du coup, alors, plus pratico-pratique, attends, je réfléchis là, si on passe par la pratico-pratique ou si on parle des bénéfices, qu'est-ce qui te semble le plus judicieux?
Je sais pas, ça dépend, qu'est-ce qu'on va raconter, de toute façon on va... Au final, on dit toujours la même chose. Mais...
Ouais, bah allez, on a parlé des risques. Alors peut-être quelles peuvent être les choses agréables, positives de ce qu'on peut en retirer de cette pratique. Et puis, on terminera peut-être sur le pratico-pratique. Comme ça, les personnes qui ont envie de tester ce soir, cet après-midi, ce week-end, peu importe, vous restez jusqu'à la fin.
Donc les bénéfices, bah, c'est une... ouais, pareil, ça, je pense qu'il peut y avoir une liste infinie. Moi, je vais commencer par un endroit, puis je vais voir... Où est-ce que ça mène? Mais déjà, c'est intégrer cette partie du corps à soi, l'intégrer pleinement, tout comme c'est important d'avoir aussi une belle relation avec ses parties génitales, parce que parfois elles peuvent être mises de côté. Donc c'est aussi l'anus, pareil, bah, okay, c'est un endroit vivant de mon corps. Et en fait, plus j'intègre toutes les parties de mon corps, plus je vais me sentir reconnue, pleinement vivante. Donc c'est d'un point de vue très général, je dirais ça. Et ensuite, bah, ça peut, en gros, pour moi, il y a plusieurs voies. Il y a la détente, le plaisir, et il y a aussi la déconstruction. Là, je parle plutôt pour les hommes cisgenres.
Et hétéros.
Oui, c'est ça. En tout cas, après, potentiellement, il y a sûrement des hommes gays aussi qui n'ont pas de pratique anale, mais c'est vrai que, voilà, plutôt les hommes hétéros. On peut commencer par la déconstruction, tiens. Moi, de ce que je comprends et de ce que je vis aussi en tant qu'homme cisgenre hétéro, on m'a appris à... Globalement, je suis dans une société qui m'a appris à être plutôt fort, pas trop vulnérable, plutôt coupé de mes émotions, en tout cas à part la colère qui peut être un petit peu célébrée, les autres sont pas trop bienvenus, et que je dois en gros assurer et être la personne voilà, qui est plutôt forte, mais qui peut amener du coup de la rigidité et aussi peu de vulnérabilité. Et au contraire, on m'a appris à ne pas du coup être trop touché par les situations, par ce que je vis, et de pas être pénétrable en fait aux situations, c'est-à-dire être pénétrable pour moi, c'est se laisser pénétrer, se laisser toucher par un moment, par une situation, par une énergie, une atmosphère, par une rencontre, par une discussion, et on m'a plutôt appris à être impénétrable, et on m'a dit que tout ce qui était pénétrable c'était féminin, et que le féminin c'était nul. Voilà, en gros, pour faire. Donc, se relier à mon anus, c'est du coup à aussi à la pénétrabilité de mon anus, c'est me aussi, enfin, c'est concrètement, il n'y a pas que métaphoriquement d'être pénétrable, donc me laisser toucher par les émotions, tout ça, c'est concrètement devenir pénétrable. Et moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'idée que, en tant qu'homme cisgenre, en fait, notre chemin, c'est de devenir pénétrable. Et je dis pas que tous les hommes cisgenres doivent être pénétrés dans l'anus, tous les hommes cisgenres hétéros, mais en tout cas, je dis juste que ça peut faire partie du chemin et c'est pas qu'une métaphore, c'est vraiment réel parce qu'en fait, d'apprendre à devenir pénétrable, il se passe plein de choses après dans sa vie, de comprendre ce que c'est d'être pénétré. Et du coup, dans l'aspect de la déconstruction, il y a aussi changer, bah, si je suis hétéro, changer les rapports pénétrant, pénétré. Et donc, je vais aussi, en tant qu'homme, comprendre ce que ça veut dire d'être pénétré. Ah ouais, d'accord, c'est ça d'être pénétré, c'est ça d'être en position d'être pénétré, c'est ça de recevoir quelqu'un en moi ou de recevoir un objet. Ou de recevoir des doigts, peu importe. Et ça peut complètement changer ma vision, en fait, de ce que c'est la pénétration, la sexualité. Enfin, en fait, là, c'est une boîte qui s'ouvre et qui est juste magnifique, en fait.
Infini. Une meilleure compréhension de la sexualité ou dans les rapports. Et là, je fais une petite parenthèse avec un épisode que j'ai enregistré avec Virginie Kerrar, où du coup, la réflexion qui était faite, c'était en fait, souvent, on va dire ah, bah, la sexualité des femmes, c'est compliqué, celle des hommes, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, c'est pas une question de sexualité ou de genre, c'est une question de pratique, en fait. Les personnes qui sont pénétrées, hommes ou femmes, ont besoin de temps, en fait, pour permettre une détente, pour permettre une excitation, pour permettre plein de choses. Et donc, comme tu disais, le fait de pouvoir se dire que je peux expérimenter la pénétration et que c'est peut-être quelque chose de nouveau, peut-être apporter une meilleure compréhension sur bah, si j'ai des rapports hétérosexuels avec une femme, de comprendre peut-être un peu mieux, bah oui, alors je comprends en fait le temps qu'elle a besoin ou les ajustements. Je sais pas, je me dis que ça pourrait apporter ça aussi.
Complètement. Et la vulnérabilité, du coup, que ça implique aussi d'être pénétré et potentiellement même le sentir que ah, à ce moment-là, c'est plus difficile de communiquer sur mes besoins, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai plus de mal à dire stop, j'ai plus de mal à dire non. Ah ouais, parce qu'en fait, je dois apprendre que dans cette posture-là, ouais, il y a une posture plus vulnérable. Et donc, ça donne beaucoup d'empathie.
C'est vrai, en fait. Ça, tu l'expérimentes.
Ah ouais, complètement. Ah ouais. Ouais, complètement. Puis c'est des retours aussi que je peux avoir, c'est qu'en fait, plus l'intensité augmente, plus c'est difficile aussi potentiellement de poser ses limites, de dire ses besoins. Et donc, dans la pénétration, il y a une forme d'intensité en général.
Ouais.
Même si ça peut être très lent, mais il y a une intensité dans la présence et dans ce que ça crée, quoi. Quand je dis intensité, ça ne veut pas dire rapide.
Mais il y a beaucoup d'informations.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'intensité pour le système nerveux de ce qui se joue, quoi, à ce moment-là.
Ah ouais, ça, là, pareil, tu vois, déconstruction, ça fait... Je suis sûre, là, si vous nous écoutez aussi, ça va lui faire pou-pou-pou-pou dans votre cerveau.
Ouais, et pareil, là, j'invite les hommes cisgenres hétéros à explorer, quoi. Après, on ne sait même pas ce qui peut arriver, quoi. C'est énorme. C'est énorme en termes de déconstruction.
Il y a tant à apprendre, parce que plus il y a des personnes qui expérimentent ça et font des retours d'expérience, des partages, bah, plus on peut apprendre aussi de la sexualité.
Yes. Et aussi, ça peut être, du coup, on a parlé des hommes cisgenres et hétéros, mais ça peut être aussi pour les femmes cisgenres et hétéros qui aussi apprennent, on peut être pénétrable d'autres façons que, enfin, on peut être pénétrable énergétiquement, enfin, il y a plein de façons d'être pénétrable, mais elles peuvent devenir littéralement pénétrables aussi avec leur compagnon, avec leur partenaire. Ça peut être avec des doigts, ça peut être avec des sextoys, avec, voilà, mais en tout cas, il y a aussi ce... Voilà, expérimenter aussi cette façon d'être en lien.
Ouais, elle pénètre.
Voilà, c'est ça. Les femmes aussi deviennent pénétrantes.
Ouais.
Je dis pénétrable, mais non.
Pénétrantes, ah oui, j'avais compris pénétrable, mais pénétrantes.
Non, j'ai dû me tromper, c'est qu'elles deviennent pénétrantes, c'est ça. Du coup, c'est aussi laisser l'opportunité aux femmes de devenir pénétrantes. Et comme j'ai dit, ça peut être énergétique, ça peut être de plein de façons, mais là, il y a un truc vraiment concret dans la matière. Je peux être pénétrante en tant que femme. Avec mon homme, avec mon partenaire.
Mais c'est génial, ça permet d'inverser les rôles, de jouer plusieurs rôles, de ne pas se cantonner à simplement un rôle. Et puis même, je pensais, ben là, pareil, aux hommes homosexuels qui ont déjà cette expérience-là pour les personnes qui l'ont, mais peut-être aussi apprendre, peut-être plus en conscience aussi, de venir explorer cette zone-là.
Complètement. Ouais, complètement. Il y a aussi un chemin potentiellement là-dessus, ouais.
Dans les bénéfices, il y a la déconstruction, la détente, il y a autre chose.
Détente, du coup, on en a déjà pas mal parlé finalement au début. C'est l'idée que c'est le système nerveux autonome, donc c'est un oral qui ne triche pas, qui ne ment pas. Si j'ai peur, si je suis serré quelque part, si j'ai des émotions qui ne sont pas traversées, mon anus va être serré. Et en même temps, aussi de venir stimuler, masser, prendre soin de l'anus, ça permet aussi potentiellement détendre tout le corps parce que c'est masser le système nerveux autonome. L'anus en entrer le conscient et l'inconscient, c'est comme aller faire un massage de son inconscient, si je suis plus poétique. Donc voilà, sur le côté détente, ouais, on en a déjà parlé et c'est vraiment lié au système nerveux autonome. Mm. C'est une histoire de système nerveux. Et après, sur le côté plaisir, et ben écoute, là encore, c'est une infinie de possibles et à chacun, chacune de voir qu'est-ce qui fait du bien ou qu'est-ce qui donne du plaisir à cet endroit du corps. Ce que je peux dire, bah donc je l'ai déjà dit, c'est que l'anus, il est fortement innervé en tissu sanguin, en vaisseau sanguin, donc il y a un endroit en fait où on peut sentir des choses, c'est un endroit sensible. Et donc pour les personnes qui ont une prostate, la prostate c'est un organe aussi de plaisir qui peut donner accès à des orgasmes qu'on appelle orgasmes prostatiques. Pour les personnes qui ont un vagin, en fait, il y a aussi le fait que l'anus et le vagin sont proches, et depuis l'anus, en fait, je peux stimuler différentes zones du vagin. Donc à la fois, il y a les sensations en soi dans l'anus, mais il y a aussi les sensations qui sont procurées par le fait que je masse l'anus ou je stimule une partie de l'anus, et en même temps, je stimule des zones du vagin. Et je pense que là-dessus, on a encore pas mal de recherches à faire, et finalement, en tout cas, scientifiquement, on n'est pas si avancé. Et ensuite, il y a aussi une autre zone intéressante. Là, c'est un peu plus technique, mais plus vers le coccyx, donc là, la pointe de la colonne vertébrale en interne.
Ah oui.
Il y a un endroit que les tantriques appellent appellent ça la glande Kundalini. Et donc, ça serait cet endroit-là, qu'en fait, c'est un peu le cœur du chakra racine. Et à cet endroit-là aussi, certaines personnes disent avoir des orgasmes très grands, enfin en tout cas des sensations de plaisir vraiment très fortes en stimulant cette zone-là. Après aussi physiquement, c'est vraiment un endroit très spécial parce que c'est un endroit où s'accrochent en fait les muscles du périnée. Donc, et qu'on peut aussi stimuler en externe et en interne, c'est-à-dire que je peux stimuler en interne mais aussi en externe. Si je touche l'arrière de mon coccyx, je peux presque faire toucher mes doigts, c'est assez impressionnant. Pour la première fois peut-être, mais vraiment là, on peut amener beaucoup de détente et aussi de plaisir parce qu'on vient toucher des zones qui sont sensibles du corps, qui donnent beaucoup de sensations.
Puis ça peut être particulier aussi quand justement dans cette zone-là, et venir titiller le coccyx, on sent les petits os comme ça là bouger, c'est un peu particulier aussi cette sensation-là.
Ouais, c'est ça. Dans ma formation, ils disaient c'est un peu comme une dent qui bouge, la sensation de la pointe du coccyx. C'est découvrir des nouvelles.
Mais ça permet de remettre le coccyx en place, si jamais.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle le toucher rectal. Hein, d'aller toucher pour remettre un coccyx. Il y a certains kinés ou ostéos qui font cette pratique-là aussi.
Ouais, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Mais maintenant, il faudrait peut-être que je l'associe à quelque chose de plaisant aussi. Mais c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en même temps, alors je fais la parenthèse, hein, mais oui, ça permet vraiment de soulager même l'inflammation du périnée, ça permet vraiment de détendre s'il y a de l'inflammation. Mais du coup, c'est vrai que dans cette pratique-là, même si c'était médical, ça apporte on sent tout à l'intérieur de soi puisque c'est en interne, mais je trouve que ça permet de faire vraiment une cartographie de cette zone-là qu'on n'a pas l'habitude forcément d'avoir en plus.
Tout à fait. Et peut-être ce que quand tu dis cartographie, ça peut introduire le côté pratico-pratique,
yes.
Parce que c'est un mot que j'utilise
belle
aussi.
Transition.
Mais juste pour finir ça fait une transition, et juste pour finir sur le côté plaisir, c'est qu'aussi, globalement, les sensations sont plutôt augmentées avec l'intensité érotique ou l'énergie sexuelle ou l'excitation sexuelle qui monte. C'est-à-dire que si à froid complètement, aller sur l'anus, ça va probablement pas être forcément très érotique. Mais en revanche, si j'ai commencé à faire monter en moi l'intensité érotique, les sensations vont être plus intenses aussi au niveau de l'anus.
Oui. Et c'est important de le dire parce que même là, en expliquant le pratico-pratique, c'est pas parce que hop, directement, vous allez toucher ce point ou cette zone que ça y est, ça va être l'explosion. Non, il faut déjà pouvoir avoir cet état d'excitation, être dans la détente, être dans le moment présent pour que l'excitation monte et peut-être avoir du plaisir. Mais se dire je vais aller dans cette zone, puis directement je vais avoir du plaisir, ça on remet un petit peu les pendules à l'heure.
Ouais, voilà, et j'ai envie de dire c'est comme toutes les parties du corps, quoi. C'est juste prendre le temps. Ouais, donc merci de préciser ça.
Du coup, pratico-pratique. Alors là, on ne va pas pouvoir aborder non plus tout en détail. Puis si les gens sont très intéressés, ils peuvent aussi regarder ta masterclass où tu expliques vraiment en détail. Mais imaginons que là, les personnes qui nous écoutent, il y a un couple hétérosexuel qui a envie de pratiquer ça. Imaginons, là, on va prendre le cas, puisque toi, tu disais, voilà, tu es un homme cisgenre, hétéro. Prenons le cas où, là, c'est pareil, un homme cisgenre, hétéro qui a envie de faire cette pratique-là avec sa copine. Par où il commence ? Que ce soit elle, que ce soit lui, comment on commence ?
Alors, il y aurait plein de façons. Moi, ce que je recommande, après, il y a des personnes, ça leur plaît pas cette recommandation, mais c'est de commencer seul.
Ouais.
Ça, on peux en parler, et puis après, ouais. c'est aussi possible de le faire à deux. Mais en tout cas, commencer seul et déjà construire un nouveau lien avec cette partie de son corps. Et par exemple, juste admirer sa beauté. Prendre un petit miroir et se poser et regarder son anus. Regardez comme c'est magnifique, un anus en fait. Regardez tous ces petits plis.
Sans jugement.
Les couleurs.
Les poils.
Juste observer, voir les poils, les formes, tout ce qui est là et juste dire « Waouh, en fait, c'est juste trop beau cette partie de mon corps. » En tout cas, apprendre à le voir comme quelque chose de beau. Ça sera peut-être pas évident tout de suite, mais ça peut. Donc voilà, prendre le temps de faire ça.
Puis ça serait bête de mourir sans savoir à quoi son anus ressemble vraiment.
Clairement. Et c'est vrai que c'est pas une zone qui est accessible à notre vision directement. Donc voilà, tu prends un petit miroir, tu te poses et tu regardes. Et même là, tu peux aussi faire quelques respirations, voir comment tu es capable de fermer, d'ouvrir ton anus, le sphincter externe. Donc voilà, tu peux jouer un petit peu avec ça. Mm-hmm. Et ensuite, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de commencer par une pratique de détente, voire de cartographie. Donc cartographie dans l'idée, en fait, d'aller sentir différentes parties de l'anus, et ensuite d'abord en externe et ensuite d'aller en interne, et juste de voir c'est quoi les sensations à cet endroit-là. Ah ouais, est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est plus désagréable, est-ce que si je tapote, est-ce que si j'appuie plus fort, est-ce que si je fais des cercles. Donc là, je parle plutôt avec un doigt, du coup, une exploration avec un doigt, je pense que ça peut être une bonne façon pour commencer. Après,
un doigt lubrifié qui tapote, qui tourne autour de l'anus, c'est ça plutôt de manière externe en premier?
Ouais, d'abord commencer en général. Ouais, bien sûr, commencer par l'externe. Donc déjà sentir les tissus autour de l'anus, voir si je pose juste un doigt sur l'anus, qu'est-ce que ça fait. Merci de rappeler la lubrification. Donc l'anus, ça se lubrifie pas tout seul. Il peut y avoir une légère lubrification, mais c'est vraiment important de bien lubrifier, donc trouver la lubrification qui te convient le mieux. Ça peut être de l'huile de coco, des lubrifiants, enfin, peu importe. Donc bien lubrifier tout ce que j'introduis dans l'anus, et aussi dans le rectum. Et donc d'abord, ouais, explorer l'extérieur.
Petite parenthèse,
ouais,
désolé.
Je t'en prie.
Petite parenthèse, mais je sais que tu le dis dans ta masterclass, mais coco, si vous utilisez coco avec préservatif, faites attention, c'est pas compatible les deux. Voilà, de préciser quand même ça.
Ouais, en tout cas avec les préservatifs avec latex, c'est-à-dire que ça peut utiliser des préservatifs sans latex, ça existe aussi pour les personnes qui sont vraiment fans d'huile de coco. Ouais, et une petite nuance là-dessus. Donc ouais, voilà, faire attention aux compatibilités en effet des huiles ou des lubrifiants, soit avec les sextoys, parce que par exemple les lubrifiants en silicone, ça marche pas avec les sextoys en silicone, mais bon, tout ça c'est ouais, bien regarder les mélanges qu'on fait, il y a des petites choses à respecter. Donc voilà, trouver son lubrifiant préféré, ses accessoires préférés. Moi, ce que je conseille aussi pour les hommes, enfin moi j'ai commencé comme ça et c'était plus facile. En fait, j'ai remarqué que je dis ouais, c'est bien d'explorer en solo et avec son doigt, mais moi j'ai observé que au début, quand j'avais commencé, mettre un doigt dans mon anus, ça faisait beaucoup d'informations. C'est-à-dire que j'avais l'information de l'anus qui recevait quelque chose et j'avais là aussi l'information du doigt serré avec toutes les sensations du doigt et c'était un peu impressionnant. Et donc ça a été plus facile de commencer avec un stimulateur prostatique. Et de vraiment juste me détendre avec une pratique de stimulateur prostatique. Mais voilà, chacun la trouvera son chemin par rapport à ça. Ça peut être essayé avec... Stimulateur prostatique, c'est pas très grand, donc ça peut s'insérer quand même relativement facilement. Et il y a vraiment ce truc ciblé sur la prostate et qui est vraiment une pratique aussi de détente. Je vais pas parler en détail de comment utiliser ce stimulateur prostatique, mais en tout cas, c'est aussi un chemin très méditatif et de détente et de lenteur. Mm-hmm. Et ça peut être très chouette pour commencer à rencontrer son anus. Après, ça peut être aussi à deux tout de suite. Et j'ai envie de donner un peu les mêmes recommandations à deux. Bah, déjà, d'avoir une conversation sur OK, bah, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est pour toi? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles t'es à l'aise, t'es pas à l'aise? Parler de qu'est-ce qui se passe, par exemple, par rapport au sel, aux excréments, tout ça. Comment on gère ça? Et ensuite, moi, je préconiserais, si c'est une nouvelle pratique, de pas le faire forcément dans un cadre sexuel, mais plutôt s'offrir un cadre où c'est très clair. Je sais qui est-ce qui donne et qui est-ce qui reçoit. Donc, il y a une personne qui donne, une autre qui reçoit. Et la personne qui donne, elle est au service de l'autre pour l'aider à sentir différents endroits de son anus, d'abord en commençant par l'externe, et puis ensuite aller en interne, si ça rentre, si ça se détend, sans forcer, Laisser la personne qui reçoit ce massage se toucher, respirer, et aussi exprimer les sensations, dire comment je me sens. Et donc vraiment prendre le temps d'un cadre peut-être dédié à ça. Parce qu'après, en fait, dans la sexualité, on a des autoroutes qui sont connues. Donc si j'ai l'habitude d'avoir plus ce type de sexualité, on va dire la sexualité un peu conventionnelle, on va dire une sexualité voilà, qui va vers pénétratif, pénis, vagin et tout ça, et c'est facile et ça marche bien entre les deux partenaires, génial, il n'y a pas spécialement quelque chose à changer. Mais en revanche, si elles veulent introduire d'autres formes de jeu, là, ça peut paraître un peu bancal ou un petit peu maladroit de passer avec l'anus. Donc pour préparer ça et pour mettre plus de fluidité après dans la sexualité, c'est bien juste de prendre des temps dédiés à ça, de se donner un espace en fait de soins, comme si la personne allait lui faire un massage une autre partie, mais là on se dit bah là je vais prendre soin de ton anus et on va ensemble avoir cette curiosité d'aller cartographier comme des exploratrices de cette partie de ton corps.
J'adore ce conseil, ouais, de vraiment prendre un moment à part comme s'offrir un massage et un cadre d'exploration et fun et léger et on profite quoi de ce moment.
Ouais, c'est ça. Et puis la puissance du cadre, quoi. Ça, je pense que tu en parles sûrement dans ton travail et puis dans les podcasts, mais comme un cadre, c'est-à-dire des règles qu'on se fixe ensemble, peut soutenir quelque chose de juste magnifique dans un suite qui se déploie.
Ouais, c'est puissant. C'est puissant, puis ça permet du coup aussi la détente. Donc,
complètement.
Cercle vertueux.
Et la sécurité, tu posais cette question-là au début de comment amener plus de sécurité. Et en effet, le fait d'avoir un cadre, je sais que, par exemple, si je suis la personne qui reçoit ce massage, je sais que moi, j'ai rien à faire à part juste écouter mes sensations, s'il y a de la douleur, dire ce que j'ai besoin, mais je sais que la personne est là pour moi, que j'ai pas à faire autre chose, aller la toucher pour la remercier. Quoi. Non, c'est juste là, c'est un temps pour moi, et du coup, ça peut vraiment m'aider à me détendre et à plonger. Et ensuite, bah, ça, c'était plus le conseil débutant, enfin, en tout cas, pour commencer à s'explorer, et après, ça peut s'insérer aussi, bien sûr, dans toutes les pratiques sexuelles, et là après c'est aussi accepter quand même que ça demande un petit peu une forme de logistique, donc il y a le lubrifiant, il y a faire attention au single use qu'on a déjà mentionné, et après ça peut être à vous de trouver les pratiques que vous préférez, est-ce que c'est des doigts, est-ce que c'est la langue, est-ce que c'est des sextoys. Il y a plein de choses possibles.
Ouais, et ça, le lubrifiant, de toute façon, on le recommande tout le temps. Donc, on s'en fiche. Là, les personnes dans votre intimité, le lubrifiant, il est à côté de vous tout le temps.
C'est vrai. C'est vrai que de toute façon, même dans d'autres genres de pratiques, c'est aussi vraiment recommandé. Donc, c'est aussi des habitudes à prendre. Et après, les sextoys, il y a des sextoys qui permettent la pénétration, par exemple, d'une femme cis vers un homme cis, qui permettent aussi d'expérimenter ça. Donc, les strap-ons, code ceinture, tout ça c'est aussi à explorer, à jouer avec, peut-être c'est pas ça qui vous convient, c'est juste des doigts ou c'est autre chose et tout est cool.
Ouais, il y a plein d'explorations comme tu dis, pas d'obligation et d'y aller, ce que j'entends, et c'est vrai, c'est ce qu'on répète souvent dans la sexualité, mais ce que j'entends c'est vraiment étape par étape quoi.
Ouais, c'est ça.
On y va à son rythme, ce qu'on sent juste pour soi et sans pression, sans attente non plus, si ce n'est une exploration, une curiosité, une écoute, quoi.
Ouais, c'est ça. Essayer de sortir de cette autoroute, là, de l'agenda, de « il faut absolument orgasmer, il faut absolument vivre cette sensation-là, cette truc-là, il faut absolument aller jusqu'au bout de la pénétration, il faut absolument toucher la prostate, si c'est une personne qui a une prostate. » C'est les autoroutes qu'on connaît, qui sont un peu présentes, et du coup, c'est apprendre un peu à trouver d'autres chemins de traverse qui sont plus intéressants. Peut-être qu'on va trouver, on va prendre le temps de découvrir d'autres choses et de nous laisser surprendre.
De découvrir. Ouais. Ouais, et pour rebondir sur la prostate, c'est vrai, on en parle de plus en plus aujourd'hui, et c'est pas retomber dans une autre forme d'injonction, et ça on l'a bien répété au début, hein, mais c'est pas parce qu'on en parle que vous devez forcément faire ça, ou que si vous êtes une femme cis dans un couple hétéro, de se dire mon partenaire il doit absolument faire ça, parce que sinon ça veut dire qu'il est pas déconstruit. Non, consentement, il est pour tout le monde, partout.
Clairement. Et aussi, si t'es une femme cis et que t'as pas dans un couple hétéro et que t'as pas envie parce que tu penses que c'est une nouvelle charge mentale pour toi ou que finalement t'es pas non plus attiré par cette pratique, c'est pas non plus une obligation d'être pénétrante avec l'anus de ton partenaire. Enfin voilà, il y a aussi l'idée de pas se rajouter des choses, mais faire des choses plutôt qui nous font du bien, qui nous soutiennent, qui ouvrent des portes, qu'on a envie d'ouvrir.
J'adore. Et alors ma question, non, avant ma question finale quand même, est-ce que tu as quelque chose qui te semble important d'ajouter par rapport à ce qu'on a dit, ou peut-être quelque chose que j'ai oublié de te poser comme question, Voilà, là, un petit moment pour toi.
Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un bon petit tour, et puis c'est chouette, du coup, vu que c'était avec tes questions, ça a pris des chemins que je ne le fais pas forcément dans cet ordre-là, et là j'ai vraiment apprécié pouvoir le visiter, visiter ce sujet-là avec le chemin, en co-création avec toi. Donc merci, j'ai l'impression qu'on a vraiment abordé un peu les choses principales, et que du coup la sagesse de l'anus, c'est pas une blague, c'est que vraiment il y a une sagesse à se relier à son anus, il y a une intelligence du corps, et c'est vraiment lié au système nerveux autonome, on en a déjà parlé. Mais à la fois c'est un titre accrocheur, mais qui pour moi est vraiment contient une vérité forte.
C'est vrai, c'est accrocheur, tu vois, ça suscite la curiosité, et même moi la première, honnêtement, en regardant, en entendant ce titre, bah, j'ai rigolé, évidemment, j'ai rigolé, mais en même temps, ça suscite la curiosité, et avec cette curiosité-là, bah, tu vois, aller voir ta masterclass, et puis j'ai appris tellement de choses, et je me rends compte maintenant vraiment de ce que ça veut dire sagesse. Quand tu parles de sagesse, non, c'est pas une blague, comme tu dis, et ça donne vraiment envie d'y accéder, ça donne vraiment envie de se connecter à cette partie-là de ton corps ou à son corps de manière générale, mais on comprend mieux. Donc, comme tout, avant de rigoler d'une pratique ou de nier une pratique ou de juger une pratique, informez-vous. Ça va être le maître mot, informez-vous.
Yes, ouais, c'est pour ça aussi que tu fais tes podcasts.
Yes, exactement. Pour qu'on brise ces tabous-là et qu'on en discute et qu'on s'informe, sans dire qu'on soit obligé de passer par cette pratique, mais au moins on s'informe et voilà, c'est toujours intéressant de toute façon. Et alors ma question finale, si les personnes ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, et peut-être là, si on se concentre sur les personnes que tu reçois, toi, quelle est la première chose qui te vient en tête ?
Ralentir et faire pause.
Yes.
Ouais. C'est à la fois très simple, à la fois très puissant et parfois très difficile. Mais en fait, ralentir, c'est toujours la clé pour sentir plus, ressentir plus dans le corps, pour refaire un check. Est-ce que je suis là où j'ai vraiment envie d'être ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire autrement ? Et faire pause aussi, du coup, ça peut être vraiment important dans la sexualité. Pour, notamment bah, pour faire le point, pour se retrouver, sentir plus, et plus je sens, plus je peux atteindre des états orgasmiques, plus je peux faire monter en fait toute cette intensité érotique. Et aussi parce qu'en fait, le fait de ralentir, voire même de faire pause, ça permet une forme d'intégration. Et en fait, l'intégration, en fait, le plaisir, il a besoin à la fois de stimulation, et il a aussi besoin d'intégration. En fait, c'est une danse en permanence. Donc si je suis toujours dans la stimulation, il y a un moment où je suis en surcharge d'informations, mais en fait, j'intègre plus vraiment les nouvelles stimulations. Donc en fait, rentrer dans cette courbe où je fais monter le plaisir, ensuite je prends un temps plus de plateau, voire de légère redescente, pour intégrer, pour faire pause, pour ralentir, ça permet après de continuer à monter, sans être redescendu, mais en tout cas de vraiment intégrer dans la pleine puissance là, de ce qui se vit dans la pleine jouissance en fait. C'est vraiment neurologique, c'est comme ça que fonctionne le système nerveux.
Passionnant, c'est vraiment passionnant. On pourrait discuter ça des heures et des heures, et c'est vraiment chouette. Donc les personnes qui sont vraiment intéressées, bah, je mettrai les ressources pour te retrouver. Il y a ta page Instagram, c'est ça, Plaisir Somatique, ton site internet. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver et aller piocher ces informations-là, aller creuser ce sujet.
Ouais, merci. Bah, ouais, en effet, on peut aller sur mon site, c'est thomasrocourt.com. Et ensuite, j'ai une page Insta, ouais, Plaisir Somatique, j'ai une page Facebook, et je fais une newsletter, je propose des retraites, des choses en ligne, des choses en présentiel. Je suis basé à Grenoble, mais je fais à la fois du en ligne, du en présentiel, et puis aussi des retraites potentiellement un peu partout en France. Donc, il y a différentes façons. Et il y a mon spectacle, du coup, de drag clown, La Sagesse de l'Anus, qui est en tournée actuellement. Donc, si tu veux aussi m'inviter chez toi, dans une salle...
Ah, carrément, la tournée.
Donc, voilà, invitez-moi, et je peux venir là où vous êtes, on peut s'organiser, et vous découvrirez, du coup, le personnage que j'ai créé, et qui est éducatrice sexuelle. C'est une drag clown, éducatrice sexuelle, performeuse, et qui partage cette conférence, ce spectacle. Ouais. Voilà.
Ok, et eh ben toutes les personnes là qui ont des salles, qui organisent des événements, s'il vous plaît, invitez la drag clown, j'ai trop envie d'aller voir ça.
Yes.
Trop bien. Ben merci beaucoup Thomas, prends soin de toi et à très bientôt.
Merci beaucoup Camille, à bientôt.
Voilà, c'est tout pour cet épisode, et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode, donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme, et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le-moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité? Qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité? Laissez dès à présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon, où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.